Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Regardons ensemble à Éphésiens chapitre 5, verset 18. Suivez dans votre Bible. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Prions ensemble. Père, merci pour cette magnifique parole. Seigneur, je me sens très peu à la hauteur pour traiter un sujet aussi grandiose que la plénitude de l'Esprit et pourtant, Seigneur, je sais à quel point elle est concrète et essentielle. Qu'être rempli est un commandement. Ainsi, Seigneur, donne ta sagesse alors que je parle et de la sagesse à ceux qui entendent pour que nous puissions être obéissants et saisir toute la plénitude de ce que tu nous dis. Au nom du Christ, amen. Maintenant, vous vous souvenez, si vous êtes avec nous depuis quelque temps, que nous étudions le livre des Éphésiens, verset par verset, depuis assez longtemps et nous avons découvert que nous devons mener une marche digne, que nous devons adopter un certain style de vie dont Dieu a défini les paramètres de manière très claire. Nous avons couvert les chapitres 4 et 5 d'Éphésiens, nous allons couvrir le chapitre 6 à l'avenir et nous voyons que tous ces chapitres décrivent comment le chrétien doit vivre. La clé de cette façon de vivre du chrétien est précisément ici, au chapitre 5 et au verset 18. Vous vous rendez compte que si le chapitre 5 et verset 18 n'étaient pas dans le livre des Éphésiens, le livre des Éphésiens ne pourrait jamais être mis en pratique. Si ce verset-là était effacé de ce livre, tout ce qu'il s'y trouve serait légaliste. Si ce livre était absent, vous seriez comme un gros menteur, un grand véhicule décrit au chapitre 1 à 3. Vous auriez encore, comme une carte routière, des chapitres 4, 5 et 6, mais vous n'auriez pas de carburant pour aller où que ce soit. Sans cette déclaration magnifique du chapitre 5 au verset 18, « Soyez remplis de l'Esprit », vous fonctionneriez entièrement par la chair. Il est au cœur de tout. Il est l'énergie d'une marche digne. Il est la clé pour vivre la vie chrétienne. Il est à la base de tout. Vous ne pourrez jamais avancer avec humilité. Vous ne pourrez jamais marcher dans l'unité. Vous ne pourrez jamais marcher dans la sagesse sans être alimenté par l'Esprit de Dieu. La vie de Dieu dans notre âme est la seule chose qui puisse produire cette sorte de vie, voyez-vous. Si ce n'était pas vrai, alors les personnes non régénérées pourraient vivre ainsi. Donc là se trouve le cœur de la question au verset 18. Il nous ouvre des horizons de compréhension immenses. Et en passant, je pense qu'il faut vous dire que si vous n'obéissez pas au chapitre 5, verset 18, vous êtes le plus stupide qui soit. Au verset 15, il dit « Faites attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Et le plus idiot de tous serait celui qui essayerait de marcher dans une unité humble, une manière de vivre unique, de marcher dans l'amour, de marcher dans la sagesse, d'accomplir la volonté de Dieu, et de le faire dans la chair. Voilà le plus sot de tous. Un chrétien doit le faire, par la puissance du Saint-Esprit. Alors, que signifie être rempli de l'Esprit? Eh bien, de nombreuses personnes sont déconcertées à ce sujet. Certains pensent que l'on reçoit une décharge électrique divine. Certains pensent que c'est ce qui arrive quand on parle en langue. Et vous savez, il y a ceux qui disent « Alors, avez-vous été rempli de l'Esprit ?» C'est comme s'ils vous isolaient. Il y a les chargés et les non-chargés. Si vous avez passé par une sorte d'expérience extatique, vous l'avez. Si ce n'est pas le cas, vous ne l'avez pas. Et vous savez, il y a beaucoup de variantes et de discussions sur ce concept. D'un côté, il y a ceux qui disent que c'est quand vous êtes en transe extatique, et de l'autre, ceux qui approchent le sujet très stoïquement et le reconnaissent seulement comme étant la présence du Saint-Esprit, etc. Cela n'a eu que peu d'impact sur quoi que ce soit de concret. Ces deux vues sont fausses. Ce n'est pas quelque chose de stoïque et ce n'est pas une décharge extatique. Ce n'est ni l'un ni l'autre. La plénitude du Saint-Esprit est une réalité très profonde et nous voulons la comprendre du mieux que nous pouvons alors que nous partageons ces choses ce matin. Nous examinons trois points, juste pour vous donner un cadre de ce que nous allons dire. Nous allons examiner le contraste, l'ordre et les conséquences. En fait, nous avons déjà vu le contraste. Nous verrons les conséquences la prochaine fois. Donc, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'ordre lui-même, et c'est « Soyez remplis de l'Esprit ». Voilà l'ordre. Permettez-moi seulement de mentionner le contraste, pour vous qui aurez oublié ou qui n'étiez pas là. Premièrement, le contraste du verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la asiota, ou la dissipation, la débauche, ou une maladie désespérée et incurable. C'est là que ça mène. Mais soyez remplis de l'Esprit. » Il y a le contraste entre l'ivrognerie et la plénitude de l'Esprit. Et nous avions essayé de vous faire remarquer ces dernières semaines que l'ivrognerie était une méthode utilisée dans les religions païennes pour induire une soi-disant communion avec les divinités. Autrement dit, il ne parle pas en priorité d'un problème social, bien que c'en soit certainement un. Avant d'être chrétien, il vous arrivait de vous enivrer. Depuis que vous êtes devenu chrétien, vous ne devriez plus le faire. C'est vrai dans le cadre social, mais il se concentre réellement sur un problème théologique. Les païens s'enivraient et pensaient ainsi entrer dans une conscience religieuse de haut niveau et être en communion avec les dieux. Et quand je vais dire qu'ils s'enivraient, ils étaient vraiment complètement ivres. Même ils vomissaient pour pouvoir boire encore plus. Et on a même trouvé en archéologie des endroits avec des fosses creusées exprès dans ce but-là. Ils provoquaient une idiotie d'ivrognerie dont ils croyaient qu'elle les élèverait pour communier avec les dieux. Et l'apôtre Paul fait un contraste frappant en disant « Vous communiez avec Dieu, vous vivez votre culte avec des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels. Vous vivez votre vie d'épouse soumise à leur mari et de mari aimant leur femme, etc. Tout cela vous le faites non parce que c'est provoqué par l'ivresse, mais parce que c'est produit par la plénitude de l'Esprit de Dieu. » Vous voyez, c'est tout à fait différent. Paul fait remarquer que nous trouvons notre joie et notre allégresse, nous trouvons notre communion avec Dieu, nous trouvons la base de notre adoration, la motivation de notre liturgie, si l'on veut l'appeler ainsi, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Leur liturgie débauchée, mauvaise, vile, orgiaque, de musique malsaine, connectée à une danse malsaine, associée à l'immoralité sexuelle, tout cela était induit par l'ivrognerie. Notre vraie adoration, notre belle musique, notre communion avec Dieu est produite par la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que le flagrant contraste entre l'adoration ivre et orgiaque des systèmes païens et la beauté inspirée de l'Esprit de l'adoration du vrai Dieu est dans l'esprit de Paul, et qu'il dit qu'en tant que chrétien, tu dois abandonner cela et tu dois venir à ce point d'être rempli de l'Esprit. Or, c'est un contraste courant dans l'Écriture. Regardez dans Luc, chapitre 1, verset 15, par exemple. Il dit dans Luc 1, verset 15, concernant Jean-Baptiste. Et nous avons parlé de cela abondamment dans un message précédent. « Car il sera grand devant le Seigneur. » Et voici une des choses qui le caractérisera. « Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint et le sein de sa mère. » Voilà le même contraste. Il ne sera pas un buveur. Il sera plein du Saint-Esprit. Ces attitudes religieuses ne seront pas guidées par du vin ou des boissons fortes, mais par l'Esprit de Dieu. Il ne sera pas influencé intérieurement par la boisson, mais par l'Esprit de Dieu. Il ne sera pas motivé par ce que l'alcool fait à son cerveau, mais par ce que l'Esprit de Dieu fait à son esprit. Autrement dit, il sera guidé par l'Esprit de Dieu, contrairement à ce qui guide tant de gens dans l'ivresse. Regardez dans Actes chapitre 2, et vous trouverez ce même contraste. Le jour de la Pentecôte, vous vous souvenez, il est dit au chapitre 2 et au verset 4 qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les disciples se trouvaient là, et ils se mirent à parler dans ces langues. Et au verset 9, il y a même la liste des dons de toutes ces langues variées, de même qu'au verset 10 et 11. Et ils parlaient des merveilleux actes de Dieu dans les langues qu'ils n'avaient pas apprises. Le Seigneur leur a donné cette capacité miraculeuse. Et c'est un fait qu'à ce moment-là, quand ils ont été remplis de l'Esprit le jour de la Pentecôte, c'est ce qui est arrivé. Donc, remplis de l'Esprit, ils ont fait cela. Mais les gens, au verset 12, tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de glucos, vin doux. » C'est tout simplement encore une orgie païenne, tout à fait typique des non-juifs. Une sorte d'activité religieuse, vous voyez. Ils voyaient cela et pour un juif, ce serait quelque chose de dégoûtant. Des non-juifs qui activaient leur adoration par l'ivrognerie. Ce n'est que ça. Ils se sont abaissés jusqu'à une sorte d'adoration non-juive. Ils se sont abaissés jusqu'au paganisme. Ils ont exprimé leur adoration de Dieu de cette manière inacceptable. Et c'est une moquerie. Autrement dit, ils ont dû décider de s'enivrer. Glucose était du vin nouveau. Ils disent, il est encore tôt le matin, et ils sont déjà sous l'effet du vin nouveau. Ils se moquent d'eux. Voyez-vous ça? Ils ont produit cette ivresse. Ce sont des actes typiquement païens. Alors ils se moquent d'eux. Puis ils disent, qui va vouloir écouter ce qu'ils ont à dire? Pierre se lève et dit, au verset 15, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Ce n'est pas de l'ivresse. C'est qu'ils sont remplis de l'esprit. Mais le monde, dans sa stupidité, ne sait parfois pas voir la différence entre l'expression d'un culte païen et ce qui se passe vraiment. Et la comparaison est utilisée plusieurs fois. Revenons maintenant à Éphésiens, chapitre 5, verset 18, où nous trouvons de nouveau cette comparaison. « Ne vous enivrez pas de vin qui mène à la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. » Je suis certain que Paul avait à l'esprit le récit de la Pentecôte. Je suis sûr qu'il regarde en arrière et qu'il pense à cette même chose, ce même jour où les apôtres et les disciples ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Ils faisaient des choses que les autres ont pris pour de l'ivresse et la pratique d'un style d'adoration païenne. Voilà le contraste. Examinons maintenant l'ordre sur lequel nous passerons du temps. C'est une vérité formidable. Beaucoup d'entre nous la connaissent et vous l'avez déjà étudiée auparavant, mais beaucoup d'autres ne l'ont pas fait. Certains sont nouveaux ici, donc nous voulons utiliser notre temps à partager ces choses avec vous. C'est un ordre formidablement riche. Regardez au verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, ce qui mène à la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. » Ce qu'il dit est ceci. « Voilà quelque chose que j'exige de vous, c'est un ordre. » Dans la langue grecque, il existe un mode indicatif qui est la déclaration d'un fait, et un mode impératif qui est un ordre. Ici, il s'agit de l'impératif. Soyez constamment remplis de l'esprit. C'est un ordre pour le croyant. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une suggestion. Dieu n'a que très rarement ou même jamais fait de suggestion. Et il déclare les faits. Il ne fonctionne pas par des suggestions. En fait, avec Dieu, il y a très peu d'options. Il n'y en a pas ici. C'est un ordre. Et vous savez, cela m'inquiète de voir beaucoup de soi-disant chrétiens ne jamais savoir ce que c'est que d'être rempli de l'esprit. Savez-vous que certains chrétiens n'ont jamais accepté pleinement ce principe? Tous, nous frottons par moments en ne mettant pas en pratique. Mais cela n'en fait pas moins un ordre. Cela me fait réellement souci parce qu'aujourd'hui, vous savez, beaucoup de matériels d'études et de littérature sont publiés. Beaucoup de discussions ont lieu sur le fait que vous pouvez être chrétien et ne jamais vous embarrasser d'aucune de ces choses. Il émerge une sorte de nouvelle catégorie médiane. D'un côté, vous avez l'homme naturel, non sauvé, non régénéré sur le chemin de l'enfer. De l'autre, vous avez le chrétien spirituel, qui aime la parole, qui aime le Seigneur, lui obéit, marche dans la vérité, marche dans les commandements, marche dans la lumière. Et au milieu, vous avez cette nouvelle boîte, où vous pouvez mettre des gens. Ce sont des gens sauvés, mais indifférents, vous savez. On les a sortis de l'enfer, mais on ne les mettra jamais dans la moindre sorte de christianisme. Je dirais qu'ils sont comme non engagés. Hier, je lisais un article d'un théologien en vue qui dit que ces gens sont ceux qui sont sauvés, mais qui ne marchent jamais dans la lumière. Personnellement, je ne comprends pas cela. Je ne peux pas tout à fait le comprendre. Si vous êtes sauvés des ténèbres pour entrer dans le royaume de son cher fils, et si vous marchez dans la lumière comme il est dans la lumière, je ne sais pas ce que cela est censé signifier. Mais de toute façon, ce qu'il disait, c'est que ces gens viennent, sont sauvés, mais ne sortent jamais des ténèbres. Ils sont sauvés, mais il ne se passe jamais rien. Et on a fait une petite boîte pratique où l'on a le naturel, le spirituel et le charnel. On entasse tout le monde là-dedans et on peut dire « Bon, c'est bon pour vous, vous êtes sauvés, vous irez au ciel. » Peu importe si vous ne choisissez pas d'avancer dans la vie chrétienne, vous savez, tout ira bien pour vous quand même. Vous n'allez pas perdre votre salut, vous allez valser au ciel. Vous n'aurez pas une place aussi grande que le reste d'entre nous, mais tout ira bien, c'est le ciel après tout. Et voilà cette catégorie confortable, mais avec Dieu les choses ne marchent pas comme ça. Le Seigneur ne dit pas, maintenant, si tu veux être parmi les engagés, alors fais ceci. Si tu veux être seulement dans la boîte des charnels, c'est un choix possible. Dieu n'agit pas ainsi. Il y a une règle que Dieu a établie, et je ne pense pas que la seigneurie de Christ est optionnelle. Je crois qu'elle est essentielle à la foi qui sauve. Et je ne veux pas empiler des gens dans une boîte confortable qui dit que vous pouvez être chrétien et ne rien faire. Écoutez, le Seigneur nous a commandé d'être remplis de son Saint-Esprit. Tout ce qui est moins que ça ne vaut rien. C'est de la désobéissance pure. Et si votre vie est caractérisée par cette sorte de désobéissance, 1 Jean dit que vous n'êtes pas chrétien, quoi que vous en pensiez. Donc, mes amis, c'est crucial. Les vrais chrétiens, dont la foi est réelle, ne seront pas heureux de nier la seigneurie de Christ. Les vrais chrétiens, dont la foi est réelle, ne seront pas heureux de nier la plénitude de l'Esprit de Dieu. Ils ne se contenteront pas de vivre confortablement dans une boîte pour gens charnels, où ils pourraient dire, eh bien, je suis de ceux qui ne choisissent pas de passer au stade 2. Non, je crois que c'est un ordre. Je crois que c'est un ordre parce que Dieu dit qu'il est lié à chaque croyant, et que la seule chose à faire avec un ordre de Dieu est de lui obéir. Maintenant, parlons plus précisément du sens de « être rempli ». Qu'est-ce que cela signifie? D'accord? Qu'est-ce que cela signifie? Je vais vous donner quelques pensées ici que vous trouverez, j'espère, fascinantes. J'aimerais vous donner des bases claires, d'accord? Nous commençons à la base. Premier point, tout chrétien possède le Saint-Esprit dans sa plénitude, vous avez compris? Tout chrétien possède le Saint-Esprit. Récemment, j'ai entendu un chrétien dire « Oh, vous savez, cela fait longtemps que je suis chrétien, et je viens de découvrir que je n'avais pas le Saint-Esprit. Et depuis que j'ai demandé à Dieu, il m'a donné le Saint-Esprit et tout a changé. » C'est ça. Vous êtes chrétien depuis longtemps, mais vous n'aviez pas le Saint-Esprit. Eh bien, vous savez que cette personne soit bénie. J'ai entendu ce qu'ils disaient, et je comprends qu'ils ont découvert dans leur vie ce que l'obéissance peut faire. Le fait est que tout chrétien, du moment où il croit, possède le Saint-Esprit. Il n'existe pas de chrétien dépourvu du Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est la vie de Dieu en vous qui est la réalité qui sauve. Lorsque vous devenez un enfant de Dieu, Dieu vient résider en vous par son Saint-Esprit. Il n'existe rien de tel qu'un chrétien sans l'Esprit de Dieu. Laissez-moi vous montrer cela. Regardez à Romains, chapitre 8 et au verset 9. Je vais essayer de l'approcher sous un angle un peu différent. Mais Romains, chapitre 8 au verset 9, est un verset de l'Écriture fascinant. En passant, le plus souvent, le mot « charnel » ou « de la chair » est utilisé dans la Bible pour parler des personnes non sauvées, des non-chrétiens. Et ici, il y a une bonne illustration. Il dit au verset 7 que « l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair, ou charnellement, ne saurait plaire à Dieu. » Traduction Louis II de 1910. Ici, charnel veut dire non sauvé. Il dit que si vous êtes charnel, vous n'êtes pas sauvé. Des gens disent « Bon, je ne suis qu'un chrétien charnel. » Vous pourriez être en réalité un chrétien charnel à la 1 Corinthiens 3. Ou vous pourriez être charnel, point barre, à la Romains 8. Et même ne pas être sauvé du tout. Donc, si vous êtes à l'aise avec votre manière d'être charnel, vous feriez bien de vous examiner vous-même pour voir si vous êtes réellement sauvé, car il est tout aussi possible que vous soyez charnel, Romains 8, plutôt que charnel, 1 Corinthiens 3. Il peut exister des chrétiens qui agissent charnellement, mais la vie selon la chair est en général caractéristique des non-croyants. Ils sont en rébellion contre Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Mais verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si vous êtes chrétien, vous êtes dans l'Esprit. Si vous êtes chrétien, vous ne vivez pas dans la chair. Maintenant, regardez à la fin. Il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Autrement dit, vous êtes, si vous êtes chrétien, vous êtes dans l'Esprit parce que l'Esprit de Dieu demeure en vous. Et puis, tout à la fin du verset, Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ce n'est pas que vous soyez charnel, ce n'est pas que vous ne l'avez pas encore, vous n'êtes pas sauvé. À l'inverse, si quelqu'un appartient à Christ, il a l'Esprit de Christ, vous voyez. C'est une simple affirmation. À la fin du verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et si Christ est en vous, verset 10, vous voyez. Autrement dit, si vous êtes chrétien, avec Christ en vous, vous avez le Saint-Esprit. J'aimerais que vous compreniez cela dès le début. Certains parmi vous sont de jeunes chrétiens, et vous ne pourriez ne pas le comprendre. En tant que chrétien, vous possédez le Saint-Esprit, et il est là dans sa plénitude. Il est là en totalité. Il n'y a pas de dose. Vous ne le recevez pas par petits morceaux. Vous n'avez pas besoin de dire « Oh Dieu, j'ai entendu des gens dire cela. Donne-moi davantage de ton esprit. Il n'y a plus rien à recevoir. Il ne vient pas par unité. Il est là entièrement. » Chaque croyant possède le Saint-Esprit. Maintenant, retournez à 1 Corinthiens 12 et au verset 13. Un autre verset important traitant de la même réalité. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12 et au verset 13. Nous avons ici la même insistance. Et je trouve très intéressant de savoir que les Corinthiens étaient des chrétiens charnels. Ce qu'ils avaient de charnel, ils l'avaient en tant que chrétiens. C'étaient des chrétiens qui vivaient comme s'ils ne l'étaient pas. Dans bien des cas, et je suis sûr que certains d'entre eux n'étaient pas chrétiens du tout. Ils faisaient semblant. Mais il dit à ceux-là, bien qu'ils soient des pécheurs, même des pécheurs chrétiens, il dit, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Il vaut mieux laisser le mot dans. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Tous les chrétiens sont inclus dans l'esprit. Tous les croyants ont été baptisés dans le corps de Christ. Mes amis, que je vous dise tout de suite que le baptême de l'esprit n'est pas une expérience. Le baptême de l'esprit n'est pas expérimental. Vous ne le sentez pas. Vous ne savez pas qu'il arrive. Vous ne pouvez pas l'expérimenter. Rien ne vous arrive au sens physique quand cela se passe, parce que ici, il nous est dit que nous avons été baptisés par un seul esprit dans le corps de Christ. Le baptême de l'Esprit de Dieu est l'acte par lequel le Saint-Esprit nous met dans le corps de Christ lorsque vous croyez. C'est une réalité théologique, ce n'est pas une expérience. C'est un acte par lequel Christ, le baptisant par le moyen du Saint-Esprit, vous place dans le corps. Ainsi, quand vous êtes sauvé, vous êtes placé dans le corps de Christ. Puis la fin du verset dit « Et vous buvez l'Esprit », c'est-à-dire que vous prenez le Saint-Esprit en vous. Chaque chrétien, est-il dit ici, a été baptisé et a été abreuvé d'un seul esprit. Aucun chrétien ne vit sans le Saint-Esprit, aucun. Nous possédons tous le Saint-Esprit. Revenons maintenant au chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ici, il parle aux Corinthiens de leur immoralité. Ils commettaient la fornication, ils couchaient avec des prostituées, ils commettaient toutes sortes de mauvaises et viles choses. Et Paul leur dit quoi ? On pourrait s'attendre à ce qu'ils disent « Pourquoi ne recevez-vous pas le Saint-Esprit pour que vous puissiez nettoyer vos vies ?» Mais il ne dit pas cela. Il ne dit pas « Vous, chrétiens, ce dont vous avez besoin, c'est du Saint-Esprit. » Car, si vous receviez juste le Saint-Esprit, vous n'auriez pas ce problème. Non, il ne dit pas ça. Au contraire, il dit ceci. Regardez, il ne dit pas « Si vous obteniez juste le Saint-Esprit, vous n'agiriez pas ainsi. » Il dit « Vous feriez mieux d'arrêter d'agir ainsi, parce que vous profanez le Saint-Esprit qui est déjà là, vous voyez. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous profanez l'Esprit de Dieu qui est en vous? Vous voyez, même lorsqu'un chrétien vit dans le péché, le Saint-Esprit est encore là. Voyez-vous de quoi il s'agit? Il est encore là, mais il est simplement souillé là. Ou bien, si vous voulez, Éphésiens 4 au verset 30, il est dit, « N'attristez pas l'Esprit de Dieu » ou 1 Thessaloniciens 5, verset 19. « N'éteignez pas l'Esprit. » Vous pouvez éteindre l'Esprit. Vous pouvez verser de l'eau de votre péché sur son feu de sainteté. Vous pouvez attrister l'Esprit. À propos, l'Esprit, c'est lui. Ce n'est pas un mot neutre. C'est une personne et il peut être chagriné. Il est triste et il est en agonie à cause de notre péché. Et il est profané lorsque le temple qui est notre corps est sali. Donc, vous voyez, chaque croyant possède l'Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit, il ne lui appartient pas. Tout croyant est baptisé dans le corps et boit de l'Esprit. tout croyant est le temple de l'Esprit de Dieu. Galates 2, verset 20 le dit autrement. Il dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit, ou en moi. » Vous voyez, l'Esprit de Dieu vit en moi. Regardez à Jean, chapitre 7. Vous savez, lorsque j'ai compris pour la première fois cette doctrine, elle était pour moi la plus époustouflante vérité imaginable, que le Dieu de l'univers, Dieu le vrai Dieu, Dieu lui-même, souverain, tout-puissant et majestueux, puisse venir résider dans mon corps, était une vérité inconcevable pour moi. Quelle pensée! Et c'est exactement la vérité du Nouveau Testament. Dans Jean 7, au verset 37, il est écrit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Or, qui reçoit les fleuves d'eau vive? Celui qui croit, quiconque vient et dit « J'ai soif et je veux boire » et reçoit Christ, reçoit les fleuves d'eau vive. » Et quels sont ces fleuves d'eau vive? Verset 39. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui.
Arrêtons-nous ici. Qui reçoit l'Esprit? Ceux qui croient.
Vous voyez, c'est l'acte tout simple de la foi qui sauve, qui vous donne le Saint-Esprit. Il devient le fleuve d'eau vive et il prend résidence permanente dans nos vies. Et vous ne pouvez jamais perdre cela. L'Esprit a une résidence permanente dans la vie du croyant. C'est pour cela, écoutez bien, c'est pour cela que parmi tous les ordres du Nouveau Testament, et il y en a une foule, parmi tous les ordres du Nouveau Testament, écoutez cela, il n'y en a jamais un qui ordonne d'être baptisé de l'Esprit. Jamais, jamais. Il y a 7 références au baptême de l'Esprit dans le Nouveau Testament. Aucune n'est au mode impératif. Aucune n'est un ordre. Il ne vous est jamais ordonné d'être baptisé de l'Esprit, parce que le baptême par l'Esprit se fait quand vous êtes placé dans le corps de Christ, et cela arrive au moment où vous êtes sauvé. Deuxièmement, nulle part dans le Nouveau Testament, il ne vous est ordonné d'être habité par l'Esprit jamais. C'est aussi une promesse déjà garantie. Il ne vous est jamais ordonné d'être scellé par l'Esprit ou gardé. Cela aussi est un don de Dieu. Éphésiens 1, vous êtes déjà scellé. Vous avez été baptisé, vous avez été déjà habité. Ces choses ne sont jamais données sous forme d'ordre. L'ordre est celui-ci. Éphésiens 5, verset 18. Soyez quoi? Soyez remplis de l'Esprit, c'est différent. Pas habité, baptisé ou scellé, mais rempli. Vous direz alors, mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout d'abord, c'est tout à l'opposé de l'activité païenne et de l'extase païenne. Mais le verbe veut dire ici, laissez-moi vous donner la forme verbale dans son sens littéral, puis je vous montrerai ce que cela indique. Cela veut dire, le temps présent dit « soyez ». C'est un passif. Soyez en train d'être maintenu, rempli par l'Esprit. Et l'idée d'être maintenu indique la constance. Soyez en train d'être constamment rempli. Ne dites pas « Oh, je suis rempli de l'Esprit, c'est fait ». Je suis fourni pour le reste de ma vie. Soyez toujours en train d'être rempli, moment par moment, à tout moment, vous voyez, jour après jour, jour après jour. Ce n'est pas une fois pour toutes. On ne zappe pas pour l'avoir ici et là, aujourd'hui ou l'année prochaine. C'est constant, moment par moment. Moment par moment, vous voyez, soyez continuellement en train d'être rempli. C'est un passif. Que quelque chose vous remplit. Vous ne vous remplissez pas vous-même, vous recevez l'action, et c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vous remplit. C'est au temps présent, soyez constamment, temps présent, en train d'être continuellement rempli par l'Esprit de Dieu. Vous pouvez être baptisé dans le corps, vous pouvez être habité par l'Esprit, vous pouvez être scellé par l'Esprit pour le jour de la rédemption, mais vous savez quoi? Vous pouvez vivre votre vie chrétienne dans la défaite. Si vous ne savez pas ce que signifie vivre l'expérience d'être à tout moment en train d'être continuellement rempli par l'Esprit de Dieu, cela exprime l'idée d'une œuvre continuelle et constante. Ce n'est pas une deuxième expérience qui suffit pour le reste de votre vie. Que j'ai été rempli de l'Esprit il y a 5 minutes ne vaut pas pour maintenant. Non, que je sois rempli de l'Esprit demain vaut pas pour aujourd'hui. C'est tout le temps, continuellement. Or, quand on parle de remplir quelque chose, on pense à un verre,
Vous savez, on le remplit, ou bien une boîte, où l'on met quelque chose, ou un conteneur dans lequel on jette quelque chose. Mais ce n'est pas cette idée-là. Laissez-moi vous donner trois concepts où vous raccrochez. Le mot est utilisé pour du vent, qui remplit une voile, la gonfle et fait avancer un bateau. Vous savez, quand on dit que les voiles sont pleines de vent, et ceci est dans l'esprit de Paul, comme première pensée, d'être poussé. Être poussé, pensée magnifique. Être emmené, avoir la poussée de votre vie et l'énergie de votre vie et la pression de votre vie venir de la puissance de l'Esprit de Dieu. Autrement dit, vous n'avancez pas par votre propre énergie, vous n'avancez pas par votre propre chair, vous n'avancez pas avec vos propres idées, vous n'allez pas vers vos propres idéaux, vous ne produisez pas votre propre volonté, vous êtes poussé en avant sous le souffle de l'Esprit de Dieu, vous êtes emmené le long du chemin qu'il veut que vous preniez. C'est dans un sens très réel, presque comme pour ceux qui ont écrit la Bible, qui ont été poussés à le faire par l'Esprit de Dieu. C'est comme si vous n'étiez qu'un bâton dans un petit ruisseau. Avez-vous jamais observé un bâton? Quand vous étiez petit, vous jetiez un bâton dans un ruisseau, et puis vous couriez pour le voir arriver plus bas. Vous êtes emporté par l'Esprit de Dieu. Vous êtes poussé comme un bateau à voile dans le vent. C'est une des idées. Être rempli de l'Esprit, c'est être poussé jour après jour, moment par moment, d'une entreprise à l'autre, d'une pensée à l'autre, d'un mot à l'autre, d'une action à l'autre, par la puissance de l'énergie de l'Esprit de Dieu. Donc, il y a l'idée d'une pression qui vous emporte dans la volonté de Dieu. La seconde idée est celle d'imprégnation, pleuro-o, et parfois utilisée pour quelque chose qui imprègne. Et je crois qu'une bonne illustration de cela est le sel. Le sel imprègne. En fait, il imprègne si bien que si vous en mettez assez sur quelque chose, il va le conserver, n'est-ce pas? Mais si vous voulez manger quelque chose et que vous mettez du sel dessus, il donnera du goût. Il pénètre dans tout le morceau et le tout a du goût. J'ai aussi trouvé l'utilisation d'une pastille effervescente. Si vous avez lu mon petit livre intitulé « Trouver la volonté de Dieu », vous aurez vu ce principe de la pastille effervescente Fizzy. Les Fizzy étaient une sorte d'Alka-Seltzer, aromatisé, d'à peu près la taille d'un Alka-Seltzer, sauf qu'ils étaient faits au raisin, à l'orange, aux extraits végétaux, à la cerise, etc. Et c'était aromatisé, vous savez. Vous en preniez quelques-uns, vous les mettiez dans un verre d'eau, et ça faisait pchit, comme un Alka-Seltzer. Et toute l'eau était imprégnée du goût. Si vous aviez un Fizzy au raisin, tout votre verre d'eau avait le goût du raisin. C'était de l'eau aromatisée. Pléro-o est utilisé dans ce sens-là. C'est dans le sens que l'Esprit de Dieu donne du goût à la vie, de manière que vous ayez le goût de l'Esprit de Dieu. Ainsi, quand les gens vous approchent, le goût de votre vie est celui de Dieu. Quand quelqu'un est avec vous, c'est comme être avec Dieu, vous voyez. Donc, il y a l'idée de la poussée qui vous fait avancer, et il y a l'idée d'imprégnation, de manière que quand quelqu'un est avec vous, il peut penser avoir été avec Jésus, parce qu'il aromatise votre vie. Troisièmement, la pensée dominante pour moi, particulièrement en comparant avec le récit de l'Évangile, l'idée dominante de l'usage de « pleuro-o » est qu'il parle de contrôle total. C'est cette idée-là. On a l'idée d'avancer, on a l'idée d'imprégnation, mais l'idée de contrôle est la clé. Voyons si je peux vous illustrer cela. Dans le récit de l'Évangile, chaque fois que l'auteur veut parler de quelqu'un qui est simplement dominé par une émotion, il utilise le mot « pleuro-o » qui est utilisé ici. Ainsi, dans Jean 16 au verset 6, il est dit qu'ils ont été remplis de tristesse. Autrement dit, leur chagrin est tel qu'il ne peut pas être compensé par du bonheur, et ils étaient simplement et totalement remplis de tristesse. Laissez-moi vous donner une illustration pour vous aider à comprendre cela. La plupart du temps, on peut équilibrer les choses dans notre vie, n'est-ce pas? Prenez le concept du chagrin. Par exemple, on peut avoir une échelle pour le chagrin et à côté une échelle pour le bonheur, d'accord? Et on avance dans la vie, avec un petit chagrin par ici, puis on pense à quelque chose d'heureux, vous voyez. Ou bien, « Oh, cela ne va pas trop bien à la maison, je crois que je vais aller au bureau, j'y serai mieux. » Non, ça ne va pas trop bien au bureau, je crois que je vais retourner à la maison. On essaie d'équilibrer les choses. Vous savez, on parle de choses tristes. Nous ne voulons plus en parler. Parlons de choses plus joyeuses, mais de temps en temps. Nous ne pouvons pas maintenir cet équilibre, vous savez. La personne que nous aimons le plus au monde meurt, comme ça, tout à coup, vous voyez, et d'un coup l'échelle est au plus bas pour le chagrin, et rien de ce que quiconque dira ou fera ne peut ôter cette tristesse. On en est rempli. C'est là qu'on utiliserait ce mot. Le chagrin domine tout. De l'autre côté, vous avancez dans la vie. Du bonheur par ici, de la tristesse par là. Tante Martin meurt et vous laisse 50 000 euros. Ça monte en flèche du côté joie. Et peu importe, tout peut s'écrouler. J'ai 50 000 euros, youpi. Vous voyez, vous ne vous y attendez pas du tout. Et vous êtes tout à coup rempli de joie. C'est le concept de ce mot. Vous êtes totalement dominé par la joie. Et vous n'avez pas besoin d'équilibre. Les choses plus tristes autour de vous ne vous intéressent pas du tout. Vous êtes heureux. Et c'est comme ça avec la vie, vous savez. Beaucoup de choses qui nous sécurisent et des choses qui nous effraient nous font peur et nous supportons un moment. Oh, vous savez, un mari a une augmentation et on achète une nouvelle maison et les enfants vont bien. Et nous nous sentons si... nous nous sentons complètement en sécurité. De l'autre côté, un désastre survient terrible. Nous sommes effrayés à mort. Vous savez, c'est le milieu de la nuit. Et quelqu'un gratte près de la fenêtre. Oh là, vous voyez. Vous savez, ça, c'est le pleuro-o. C'est être contrôlé à tel point par cette émotion que vous ne pouvez plus garder l'équilibre. Vous en êtes sorti. Vous êtes hors de contrôle. Vous êtes contrôlé par ce qui influence votre pensée et vos émotions. Or, il en va de même avec notre façon de vivre la vie chrétienne. Voilà comment la plupart d'entre nous avançons. Il y a un peu de soi ici et le Saint-Esprit là. Nous disons un peu pour soi, un peu pour le Saint-Esprit. Oh, juste un petit peu pour moi. Et puis un petit peu, tout à coup, à un moment donné, nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu. Et totalement le moi disparaît. Et nous sommes remplis de l'Esprit. Tout est contrôlé par lui. Toutes nos émotions, tous nos actes volontaires, tous nos mécanismes de pensée. Voilà ce que veut dire être rempli de l'Esprit, vous voyez. C'est le cœur de l'affaire. C'est l'idée d'être poussé pour avancer. C'est l'idée d'être imprégné pour avoir le goût de Jésus-Christ, mais c'est aussi l'idée d'être contrôlé par lui, par une ferme main de contrôle. Laissez-moi encore vous donner une illustration. Regardez dans Matthieu chapitre 4 et au verset 1. « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Ici, c'est le Saint-Esprit qui agit dans la vie de Jésus. Et le Saint-Esprit, est-il dit, « emmena Jésus ». Et il emmena Jésus, correct. Maintenant, allons à Luc 4 au verset 1. Il emmena Jésus, dans Matthieu 4 au verset 1, vers la tentation. Nous avons le même incident, la tentation, la même situation. Mais ici, il dit, attention, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mais quelle est la condition par laquelle l'Esprit l'a conduit? Comment était-il? Rempli du Saint-Esprit. Vous voyez ce qu'être rempli du Saint-Esprit veut dire? Cela signifie être conduit par l'Esprit, être contrôlé par l'Esprit. Maintenant, si nous allons à Marc au chapitre 1, le même sujet est traité, la tentation de Jésus. Et dans Marc chapitre 1 verset 12, il est dit « Aussitôt l'Esprit ». Il utilise le mot « ekbalo », poussa Jésus dans le désert. Et c'est vraiment un mot très fort. Il l'a conduit dans le désert, il l'a poussé dans le désert, autrement dit. Jésus lui-même était sous la puissance de l'Esprit de Dieu, de sorte que l'Esprit de Dieu l'a amené là où il voulait qu'il aille. Il était contrôlé par l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi plus tard, quand les gens sont venus vers Jésus en disant « Ce que tu le fais par la puissance de Satan », il a dit « Vous blasphémez non contre moi, mais contre qui ? Contre le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il avait soumis le contrôle de sa vie à la puissance de l'Esprit de Dieu. Il était rempli de l'Esprit. Et c'est pourquoi il a été conduit par l'Esprit. Écoutez, être rempli de l'Esprit, mes amis, c'est la même chose. C'est l'idée d'être conduit par l'Esprit de Dieu, d'être poussé par l'Esprit de Dieu, d'être imprégné de l'Esprit de Dieu, d'être contrôlé par l'Esprit de Dieu. C'est toute la question. Et c'est ce dont nous parlons. Nous parlons de vivre notre vie sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Il est là. Et si vous ne vivez pas ainsi, vous l'attristez d'une part et vous l'éteignez de l'autre. Vous l'attristez. C'est ainsi qu'il se sent triste personnellement. Vous l'éteignez. C'est ainsi que vous limitez ce qu'il voudrait faire. Ainsi, vous agissez vraiment négativement avec sa personne et négativement avec ses objectifs. Et en passant, à moins d'être rempli de l'Esprit de Dieu, vous ne servez à rien. J'avais l'habitude d'utiliser l'illustration d'un gant. Si j'ai un gant là, sur la table, et que je dis « Gant, va jouer du piano », qu'est-ce que le gant va faire? Un gant ne joue pas du piano, il reste là. Si je mets ma main dans ce gant et je joue du piano, Que se passe-t-il? Une cacophonie. Quel qu'ait été le morceau? J'ai laissé tomber après ma première audition, et j'ai fait du baseball. Mais vous savez, le gant, si vous y mettez la main, le gant bouge. Le gant ne devient pas pieux pour dire « Oh, doigt, montrez-moi où aller ». Il ne fait pas cela. Un gant ne se bat pas non plus contre vous en disant « Main, réponds, s'il te plaît ». Non, le gant ne fait que bouger. Eh bien, en tant que chrétien, vous êtes un gant, et vous pouvez rester sur la table et marmonner jusqu'à votre mort, mais vous n'allez jamais faire quoi que ce soit pour Dieu, jusqu'à ce que vous soyez rempli de son esprit. Parce qu'un gant ne peut rien faire sans une main. Vous ne pouvez rien faire sans l'énergie de la plénitude de l'esprit. Tout ce que vous essayez de tirer de vous-même, seul, est fait dans la chair et ne sert à rien. Au mieux, c'est de la paille. Pas de l'or, ni de l'argent, ni des pierres précieuses. Donc, ce que l'Écriture dit ici, c'est que vous avez besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu pour être efficace, pour accomplir la marche digne, la marche dans l'amour, la marche dans la lumière, la marche sage pour tout faire pour Dieu, pour marcher dans la sagesse. Vous devez être rempli de l'Esprit de Dieu, vous devez être imprégné par sa personne, vous devez être porté par sa puissance et vous devez être contrôlé par sa présence. Maintenant, permettez-moi de vous montrer quelque chose. Vous savez, à moins d'être comme cela, vous êtes inutile au Seigneur. Je veux dire qu'il ne peut rien faire de vous. C'est une perte de temps. Fonctionner dans la chair ne rapporte absolument rien. Quand le Seigneur veut qu'un travail soit fait, il utilise toujours quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Dans Actes 6, au verset 5, ils ont eu besoin d'hommes pour une tâche spéciale. Et quelles étaient les qualifications? Actes 6, verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Il choisirait Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ils l'ont choisi parce qu'il était plein de foi et plein du Saint-Esprit. Il est dit en Actes 7 au verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Eh bien, je vous le dis, être rempli de l'Esprit vous transporte jusque au-delà de ce monde, n'est-ce pas? Être rempli de l'Esprit vous donne une vue de Dieu. Être rempli de l'Esprit vous détache de ce système. Être rempli de l'Esprit veut dire que je peux moins me préoccuper de ce qui m'arrive, pourvu qu'il soit glorifié. Il n'a fait que lever les yeux et il a vu la gloire de Dieu. C'est quelque chose de transcendant, une réalité transcendante. Vous sortez tout à fait de ce monde, de vos circonstances, de vos vicissitudes. Vous sortez de toutes vos épreuves pour voir Dieu. Vous voyez, chaque fois que Dieu veut quelqu'un pour un travail, il veut quelqu'un rempli de l'Esprit parce que cela peut redonner du souffle à l'homme qui est lapidé, et s'il n'était pas rempli de l'Esprit, il ne serait pas capable de faire face. Plus tard, au chapitre 9, il avait besoin d'un homme. Il avait besoin d'un homme appelé Saul, qui était un dur à cuire, franchement. C'était un persécuteur de l'Église. Mais le Seigneur l'a saisi, et le Seigneur avait une condition de base pour lui au chapitre 9 et au verset 17. Je le lis. Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois quoi ? Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Saul, avant que tu commences ton travail, tu dois être rempli de l'Esprit. Sinon, il sera fait dans la chair. Être rempli de l'Esprit, mes amis, ce n'est que vivre chaque moment à la fois sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est tout. C'est une soumission. C'est une soumission. C'est une vidange de soi-même pour que lui puisse me remplir. Vous voyez ? Plus loin, vous trouvez, en allant au chapitre 11 et au verset 22, que le Seigneur avait besoin d'un homme appelé Barnabas pour aider un homme appelé Paul. Et lorsque le Seigneur voulut choisir un homme appelé Barnabas, il avait quelques conditions. Verset 22. Ils envoyèrent Barnabas. Pourquoi lui ? Verset 24. Car c'était un homme de bien. Et quoi ? Plein d'Esprit Saint et de foi. Je pense qu'il fallait qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce que Dieu pouvait exiger d'autre ? Et plus loin, au chapitre 13 et au verset 9, vous trouvez. Et Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui. Ici, un peu plus tard, il est toujours rempli du Saint-Esprit. Chapitre 13, verset 52, j'aime ça. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Et que s'est-il passé? À Iconium, de même, Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs, quoi? Une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. N'est-ce pas sublime? Lorsque Dieu veut quelqu'un dans un ministère pour son Église, lorsque Dieu veut quelqu'un pour un travail de missionnaire, pionnier, quand Dieu veut quelqu'un pour gagner des gens à Christ, il trouve quelqu'un. Comment? Rempli de l'Esprit. Quelqu'un qui est porté dans la volonté de Dieu par la poussée de l'Esprit de Dieu, imprégné du parfum de Jésus lui-même, et quelqu'un qui est complètement contrôlé par cette puissance. Voilà la règle que Dieu a établie, mes amis. Vous direz, bon, voilà ce que veut dire être rempli. Mais quel est le moyen? Comment suis-je rempli? Donnez-le-moi vite et ce sera fait. Comment puis-je obtenir ce remplissage de l'Esprit? Comment puis-je le savoir, puisque c'est un ordre? Eh bien, vous savez, c'est surprenant. J'entends des gens prier pour demander d'être remplis de l'Esprit. Mais vous n'avez pas besoin de prier pour cela. Ce n'est pas un sujet de prière, c'est un ordre. On ne dit pas, Seigneur, oh, je voudrais être rempli. Il est là, disant, « Je veux que tu sois rempli, je veux que tu sois rempli. » Et vous dites, « Je veux être rempli, je veux être rempli. » Il y a comme une impasse. S'il vous a donné un ordre, alors vous avez la ressource, correct? Et la ressource est de vous vider de vous-même. C'est une affaire de confession de péché. Mais laissez-moi vous donner une manière simple de considérer cela. Cela implique une soumission de votre volonté, de votre intellect, de votre corps, de votre temps, de votre talent, de votre trésor, tout à son contrôle. C'est la mort à soi-même. C'est la crucifixion de soi. C'est la mort à vous-même. Lorsque vous mourrez, il vous remplit. Quand vous vous videz de vous-même, il remplit ce vous-même. Il le remplit. Que je vous donne une image de cela. Regardons maintenant à Éphésiens, chapitre 5, très rapidement. Dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 18, il y a cette déclaration. « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. » Mais soyez remplis de l'Esprit. Or, que se passe-t-il quand vous êtes remplis de l'Esprit? Il arrive ceci. Vous vous dites des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Verset 19. Au verset 20. Vous serez reconnaissant. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout. Verset 21. Vous vous soumettrez les uns aux autres. Verset 22. Les femmes remplies de l'Esprit se soumettront à leur mari. Verset 25. Les maris remplis de l'Esprit aimeront leurs femmes. Chapitre 6, verset 1. Les enfants remplis de l'Esprit obéiront à leurs parents. Chapitre 6, au verset 4. Les pères remplis de l'Esprit n'irriteront pas leurs enfants. Chapitre 6, verset 5. Les serviteurs remplis de l'Esprit seront obéissants. Et chapitre 6, verset 7. Les maîtres remplis de l'Esprit traiteront correctement leurs serviteurs. Alors, vous avez remarqué? N'est-ce pas surprenant? Toute cette plénitude de l'Esprit ne produit jamais quoi que ce soit d'extatique. Cela produit des chants, des remerciements, de la soumission et toutes sortes de relations humaines correctes. Personne n'est survolté ni le déraille, c'est étonnant. Personne ne tombe à plat sur son dos. Personne ne tombe dans une sorte de transe extatique. Qu'arrive-t-il? C'est tout simple. Toutes les relations s'arrangent. Votre relation avec Dieu est juste parce que vous chantez et vous le remerciez. Votre relation avec d'autres personnes est juste parce que vous vous soumettez, que ce soit dans le mariage, ou dans la famille, ou dans un emploi. Tout cela est très concret, c'est très clair. Être rempli de l'Esprit affecte toutes ces relations avec Dieu, avec nos familles et avec les autres. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Regardez à Colossiens au chapitre 3. C'est un passage parallèle. C'est un passage fabuleux. Colossiens chapitre 3. Regardez au verset 16. Il dit au milieu du verset, je le lis, « Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. » Et ici, tout comme dans Éphésiens 5, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles. Et encore au verset 17, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, exprimez votre reconnaissance. » On a donc de nouveau la même séquence. Elle est condensée, mais tout y est. « Femmes, soumettez-vous à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Enfants, obéissez à vos parents. Pères, n'irritez pas vos enfants. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. » Puis au chapitre 4, verset 1. « Maîtres, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable. » Maintenant, vous voyez cela? La même séquence, vous l'avez là sous les yeux. Vous avez les chants, les remerciements, la soumission, les épouses, les maris, les enfants, le père, le serviteur, le maître. Tout identique. Or, nous savons ce qui produit cela en Éphésiens 5, la plénitude de l'Esprit. Qu'est-ce qui le produit ici? Ah, mais ici c'est différent. Regardez au verset 16. que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, en toute sagesse. Eh bien, les amis, accrochez-vous. Que je vous dise quelque chose. Être rempli de l'Esprit, c'est la même chose que laisser la parole de Christ habiter en vous, richement. Vous voyez, cela doit être la même chose, car cela produit les mêmes résultats. Les gens disent, « Oh, être rempli de l'Esprit, c'est mystique, très mystique. » Non, être rempli de l'Esprit, c'est prendre la parole que Christ nous a donnée et la laisser demeurer dans vos cœurs. Vous voulez être rempli de l'Esprit, n'allez pas vous asseoir dans un coin supplier Dieu. Si vous voulez être rempli de l'Esprit, nourrissez-vous de la parole de Christ. Et en étant nourri et rempli de la parole, il en résultera qu'en demeurant en vous, plousios, abondamment, richement dans sa plénitude, vous découvrirez que vous vous trouvez sous son contrôle. Qui est l'auteur de la parole du Christ? L'Esprit. Et quand vous versez la parole à l'intérieur, il devient ce qui vous contrôle. Comme l'a dit Spurgeon, votre sang devient bibline. On pourrait dire, vous transpirez la Bible, tant vous en êtes imprégné. Il a raison. C'est quelque chose de simple, et il n'y a aucune raison de le rendre déconcertant. Être rempli de l'Esprit, c'est simplement laisser la parole dominer ma vie. Si vous voulez savoir ce que c'est d'être rempli de l'Esprit, alors nourrissez-vous de la parole de Dieu. Car quand la parole pénètre, l'Esprit a la vérité avec laquelle il vous donnera la direction et la conduite. Vous comprenez? Dernière illustration. Et je l'ai utilisée bien des fois. Elle concerne Pierre. Pierre voulait être là où Jésus était. Je raconte cette histoire dans mon petit livre sur la volonté de Dieu. Il voulait être toujours là où était Jésus. Je suis vraiment sûr que si Jésus marchait le long du chemin et s'arrêtait, Pierre lui tombait dessus. Pierre le suivait à la trace, partout. Le Seigneur montait sur la montagne, Pierre y montait aussi. Le Seigneur disait, « Veux-tu partir ?» Il disait, « Où irai-je ? » Pierre était toujours tout près. Ainsi, je sais pourquoi il était là. Parce que quand il était très près de Jésus, trois choses ressortent dans la Bible. Il faisait des choses miraculeuses. Il disait des mots miraculeux, et il avait un courage miraculeux. La première chose, la première fois que vous voyez Pierre, il est dans un bateau sur la mer, et waouh, le moment est critique, non? La tempête! Ils sont tout seuls, et ils sont ballottés là, au milieu de la mer de Galilée. Et tout à coup, il regarde au loin, et voilà Jésus qui vient marchant sur l'eau. Et quand Pierre se dit, « Je suis ici, il est là-bas, ça ne va pas, je dois réduire l'espace, vous voyez ça ?» Et il va aller pour être avec Jésus. Or, il a été pêcheur toute sa vie. Il vivait sur la rive de la mer de Galilée et n'a jamais encore marché dessus. Chaque fois qu'il y a mis le pied, il est parti au fond. Il sait cela. Cela n'a jamais été autrement. Et pourtant, il saute du bateau et avance sur l'eau. Fait une petite distance et dit « Ah ah ah, eh bien, vous voyez !» Il était inconscient de ce qu'il faisait parce que la force de son désir d'être avec Jésus dominait absolument tout. Il voulait simplement être là où Jésus était. Bien sûr, il a rencontré Jésus et en un instant, il s'est mis à s'enfoncer. Le Seigneur lui a tendu la main, l'a relevé et ils sont retournés au bateau en marchant. Je peux tout à fait l'imaginer marchant avec Jésus jusqu'au bateau, ne se sentant pas un peu fier. Regardez-nous les copains, vous voyez ça? Et je ris toujours parce que quelqu'un a écrit qu'il y avait un banc de sable, qu'il marchait sur un banc de sable. Mais c'est le même écrivain qui a dit que ce n'était pas non plus un grand poisson qui avait avalé Jonas. C'était juste le nom du canot attaché à l'arrière du navire. Évidemment, ma question fut, qui n'a jamais entendu dire qu'un canot vomissait? Mais bon, c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, Pierre et Jésus marchaient vers le bateau. Vous devez admettre que lorsque Pierre était près de Jésus, il pouvait faire des choses miraculeuses. Je veux dire qu'il ne pouvait pas marcher sur l'eau en temps normal. Mais il pouvait le faire quand il était près de Jésus, n'est-ce pas? La fois suivante, on le voit dans notre petit exemple, il était avec les disciples rassemblés, et Jésus dit, « Qui les gens disent-ils que je suis ?» Matthieu 16, et ils dirent, « Oh, certains disent que tu es Élie, ou Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et il dit, « Eh bien vous, qui dites-vous que je suis ?» Et voilà Pierre qui dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et je suis sûr qu'il a pensé, « D'où est-ce que cela est venu ?» Vous voyez, la bouche de Pierre était disponible. Un instant plus tard, dans ce chapitre, Satan s'en est servi, vous vous souvenez? Et Jésus a dû dire, « Arrière de moi, Satan !» Sa bouche était donc disponible, et quand Dieu l'a utilisée, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant !» Quel choc! Et Jésus le regarde et dit, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux !» Mon père s'est simplement servi de ta bouche à cet instant. Eh bien, pas étonnant qu'il ait voulu être là où Jésus se trouvait. Il pouvait faire ce qui est miraculeux et deuxièmement dire ce qui est miraculeux. La troisième chose, il pouvait avoir un courage miraculeux. Dans le jardin, vous savez, tous les soldats sont venus pour attraper Jésus, l'arrêter, l'emmener au tribunal et Jésus dit « Qui cherchez-vous ?» Et toute l'armée romaine est tombée en arrière, comme des dominos, à plat, par terre. Et Pierre s'est dit « Ce sera facile, je pense. » Hein ? Et ils sont déjà tous tombés. Et le voilà debout à côté de Jésus. Et il est de plus en plus en colère et peu après il décide de se lâcher. Alors il sort son épée et commence avec le type tout devant. Il allait abattre tout le tas. Ils étaient peut-être 500 de la forteresse Antonia. Il arrache seulement l'oreille de Malchus. Et il allait le frapper à la tête. Mais Malchus a esquivé. Cela ne fait aucun doute pour moi. Pierre n'allait pas se limiter à « J'ai eu ton oreille, vous savez ». Ce n'était pas du tout son idée. Il allait s'occuper de tous et il a commencé avec le premier devant. Et allait abattre toute la troupe. Nous disons « Où as-tu trouvé ce courage, mon ami ? D'où as-tu eu ce courage ?» Eh bien, il savait qu'il suffisait qu'il regarde Jésus. Et Jésus referait ce qu'il venait de faire, et ils tomberaient tous. Donc, vous voyez, il n'avait aucun souci à se faire. Il pouvait faire ce qui est miraculeux, dire ce qui est miraculeux, avoir un courage miraculeux quand il était près de Jésus. Pas étonnant que ce soit là qu'il voulait être. Pas étonnant que lorsque Jésus a dit « Veux-tu partir ?», il ait dit « Où irai-je, Seigneur ?» Et pourtant, vous savez ce qui est arrivé à la fois suivante, où nous le trouvons. Il est séparé de Jésus. Jésus est à l'intérieur en train d'être jugé. Lui, il est dehors, se lavant les mains, ou plutôt il se chauffe les mains. Et la Bible dit que trois fois, il l'a renié. N'est-ce pas affreux? Vous savez, il a suffi à Pierre d'être séparé de Jésus pour qu'il échoue. C'est un grand principe, n'est-ce pas? Vous dites, c'était un lâche, quand Jésus n'était qu'à une trentaine de mètres. Oui, l'épisode suivant, quand Jésus est monté au ciel, vous allez dire, « Oh, c'est la fin pour Pierre. C'est un lâche à 30 mètres, que va-t-il faire maintenant ?» Le Seigneur est retourné au ciel. On pourrait aussi bien enterrer le gars. Eh bien non. Vous savez ce qu'il fait? Il se lève, le jour de la Pentecôte, et dit, « Homme de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Il continue de prêcher au sujet de Jésus que vous avez crucifié, qui est le Seigneur et le Christ. Et il prêche un chef-d'œuvre fantastique. Et Dieu utilise à nouveau sa bouche, qui agit sous l'inspiration divine. Quand il termine, ils ont le cœur vivement touché et s'écrient « Que ferons-nous » Et il dit « Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. » Et ils étaient 3000. Savez-vous ce que vous le voyez faire? Il dit à nouveau le miraculeux. Il ouvre sa bouche et Dieu parle. La fois suivante, où on le voit, il est avec Jean, et ils vont au temple pour adorer. Et là se trouve un homme couché, un mendiant de longue date. Il le regarde et dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et l'homme saute debout, saute çà et là, et danse en sautant partout dans le temple. Il ne pouvait pas dire ce qui est miraculeux, il pouvait faire le miraculeux. Et comme on n'a pas aimé ce qu'il faisait, on l'a traîné devant le Sanhédrin, en disant « Cessez de prêcher. » Il leur a dit « Dites-moi s'il faut vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Et on l'a laissé partir, et en sortant, il a tout de suite commencé une réunion de prière. Et ils ont prié que Dieu leur donne plus d'audace. Puis ils sont sortis et ont prêché d'autant plus. Écoutez, cela m'émerveille que lorsque Pierre était avec Jésus, il ait pu faire ce qui est miraculeux, dire ce qui est miraculeux, avoir un courage miraculeux. Plus tard, quand Jésus est parti au ciel, il pouvait faire ce qui est miraculeux, dire ce qui est miraculeux, avoir un courage miraculeux. Vous direz, quel est le rapport? Avant qu'ils ne se lèvent à la Pentecôte, la Bible dit dans Acte 2, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Maintenant écoutez, c'est la conclusion. Être rempli de l'Esprit est la même chose que vivre comme si vous vous teniez près de Jésus. Être rempli de l'Esprit est la même chose que de laisser la présence de Christ dominer votre vie. Mes amis, il n'y a rien de mystique. C'est me remplir de la parole de Dieu de façon que la vérité de Christ domine mes pensées. Et l'Esprit de Dieu, alors que je me soumets à la vérité de Christ en moi, me conduira à faire, dire et être ce que Dieu veut que je sois. Nous verrons plus cela la prochaine fois. Prions. Père, je prie que tu amènes dans ce lieu de prière et le lieu de conseil ceux que tu voudras y voir venir. Ramène-nous la prochaine fois, Père, pour te rencontrer d'une manière toute spéciale. Merci pour le Saint-Esprit qui vit en nous et qui veut nous remplir à chaque instant, alors que nous nous soumettons à la présence de Jésus-Christ. Aide-nous à pratiquer sa présence, à penser Jésus du matin au soir en nous nourrissant de sa parole, afin que l'Esprit puisse conduire, pour que nous puissions être utiles dans tes plans, pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.